Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonjour, c'est mardi, nous sommes le 9 septembre 2025 et j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Grosse soirée télé hier, je ne sais pas si vous avez suivi tout ce qui s'est présenté à nous. Anti-gang, entre autres, c'est la nouvelle quotidienne à Radio-Canada qui fait compétition à Indéfendable, à TVA. Et je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je pense que je vais être une cliente, comme on dit. Mathieu, je ne suis pas sûre, vous n'êtes pas tellement téléphage.
Non, pas du tout.
Non.
Mais j'apprécie ceux qui apprécient.
Mais j'espère bien.
Vous allez encore nous parler, Mathieu.
Oui, ça devrait.
Vous êtes plus un homme, quoi, de radio, de balado, de... Ben, vous regardez quand même des téléséries.
Oui.
Occasionnellement.
Mais sporadiquement.
Oui, OK. Voilà. Bon, alors, il fait soleil pour tout le monde aujourd'hui. Très agréable. J'espère que vous êtes de bonne humeur. Mathieu, ça va? Oui, Mathieu Tessier qui est à la console. Et puis, on l'a entendu, il s'agit d'André Lacombe. André Lacombe qui est avec nous un mardi sur deux et on l'apprécie toujours. André, présentez-nous votre sujet du jour.
Une éphéméride aujourd'hui, l'éphéméride du 9 septembre avec les prénoms du jour, les journées mondiales.
Oui, et les anniversaires de naissance et de décès. Ben oui. Bien, merci d'être là. Et puis, qu'est-ce qu'on aura? Ah oui, j'ai bien hâte. Il viendra en studio en plus. Il s'appelle Adam El Mouna. Peut-être que ça vous dit quelque chose si vous avez suivi La Voix. Et si vous avez suivi aussi la 57e édition du Festival international de la chanson de Granby, parce que c'est le lauréat cette année. Il viendra avec... je ne sais pas s'il viendra avec ses instruments, mais je ne pense pas qu'il va faire de... performance, mais c'est sûr qu'on va l'entendre chanter. Si c'est pas en direct, ça va être à la radio, parce qu'il y a déjà une chanson d'enregistrer qui s'intitule Ballerine et qui est très, très jolie. On aura la chronique livre avec Anne-Marie Aubin, qui viendra nous présenter un livre tout à fait original qui s'appelle Passage par Alex Landraguin. Et elle s'est bien amusée à lire ce livre. On aura aussi la chronique économie en compagnie de Michel Poitvin, donc un beau gros mardi.
Bien garni.
Style en roulant ses airs. Oh my God!
I stayed into the blue, the darkest shade of you, my love. My love. You saw me growing up and crumble underneath the table.
My God, une chanson de Léonie Gray.
Allons-y avec les unes. D'abord, la une du Devoir d'aujourd'hui. Le gouvernement français de nouveau renversé. Les députés ont renversé lundi en France François Bayrou en lui refusant la confiance dans une nette majorité lors d'un vote qu'il avait lui-même sollicité sur l'état des finances publiques. Le président Emmanuel Macron a pris acte de la chute du gouvernement et nommera un nouveau premier ministre dans les tout prochains jours, a annoncé l'Élysée hier soir. Laïcité de l'État, il est possible de se faire avorter en Outaouais, quoi qu'en dise le rapport Rousseau-Pelchat. C'est Marie-Michel Sioui. Le récent rapport sur la laïcité commandé par le gouvernement Legault s'inquiète du fait qu'aucun établissement public n'offre l'avortement en Outaouais, peut-être pour des raisons religieuses. Or, cette affirmation ne reflète pas la réalité actuelle, répliquent les établissements qui donnent bel et bien ces soins dans la région. La chasse prime sur le caribou de la Gaspésie. Le gouvernement Legault a décidé de revoir à la baisse la fermeture de chemins forestiers dans l'habitat essentiel des derniers caribous de la Gaspésie, même s'il reconnaît que cette mesure doit être une priorité pour éviter leur extinction. Cette décision a été prise afin de répondre aux préoccupations des chasseurs qui utilisent les terres publiques soutenues par les élus locaux. 224, c'est le nombre de kilomètres de chemins forestiers qui seront fermés d'ici la fin de l'été 2026, au lieu des 549 kilomètres prévus initialement dans le plan élaboré par les experts du ministère. Et puis toujours à la une du Devoir d'aujourd'hui, le Devoir est au TIFF, le Festival international du film de Toronto qui a pris son envol le 4 septembre dernier qui se poursuit jusqu'au 14, Polyamour, Trouple et autres partouzes. Éric K. Boulian parle de son film Folichonnerie, où des conjoints tentent de raviver la flamme en s'essayant au couple ouvert. Et François Lévesque, qui est à Toronto, a vu le film. Il écrit énorme en lettres majuscules, énorme coup de cœur pour ce film qu'il trouve compliqué, hilarant et poignant. À la une du Journal de Montréal, encore une gaffe d'Ottawa. Revenu Canada veut lui faire payer ses impôts deux fois. Un retraité de 78 ans de Sainte-Agathe-des-Monts a dû payer des intérêts à l'Agence du revenu du Canada sur des sommes qu'il avait pourtant déjà payées, mais que le fisc lui avait remboursé par erreur. C'est Gabriel Côté qui signe le texte. Au printemps 2023, M. Rougeon, il s'appelle Max Rougeon, a payé ses acomptes provisionnel pour l'année, un montant d'environ 1 700 $ comme il avait coutume de le faire après avoir soumis sa déclaration de revenus. Quelques semaines plus tard, l'Agence du revenu du Canada lui a versé un crédit dans son compte et le septuagénaire, content, s'est dit qu'il avait peut-être droit à plus d'argent que ce qu'il avait cru. Puis, il n'a plus songé à cette affaire, ne se doutant pas que c'était le prélude d'une longue saga. Il n'avait pas compris que c'était le montant de mes acomptes provisionnels. Ils ont jugé que j'avais payé trop d'impôts. Alors, ils m'ont retourné l'argent. Mais ils sont revenus par après pour me dire que je n'avais pas payé mes acomptes provisionnels et ils m'ont chargé de l'intérêt, raconte l'homme des Laurentides. J'ai tout payé pour avoir la paix, donc il a remboursé. Mais ce sont des intérêts illégitimes. Ils me renvoient de l'argent, puis ils disent que je n'ai pas payé, plaide de M. Rougeon. Il ne s'agit pas d'un gros montant, environ 300 $, mais c'est une affaire de principe pour le retraité. On paye assez d'impôts pour ne pas leur faire de cadeaux d'argent quand ce n'est pas dû, dit-il. Une demande de redressement a donc été transmise à la fin du mois d'août 2024 à l'ARC, l'Agence du revenu du Canada. Depuis, M. Rougeon n'a pas une nouvelle, sauf un accusé de réception. La semaine dernière, le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, a donné à l'ARC un délai de 100 jours pour accorder ses flûtes et réduire les délais auxquels se butent les citoyens quand ils ont besoin de services. Or, les problèmes de l'Agence du revenu du Canada dépassent largement la question de l'accès aux services. Le fait que le fisc multiplie les erreurs dans les dossiers qu'il traite, comme en ont fait état quelques reportages du journal ces derniers jours. À la une de la presse plus, c'est comme, ben, si vous me permettez, The Talk of the Town, François Bonnardel expulsé. En fait, le titre de la presse plus, c'est remaniement au gouvernement du Québec, Bonnardel écarté, éclaboussé par le scandale Saclic. François Bonnardel, un fidèle de la première heure de François Legault et de la CAQ, perdra son fauteuil au Conseil des ministres demain, après avoir été à la tête des transports puis de la sécurité public. C'est Tommy Chouinard qui écrit l'article. Le premier ministre François Legault sacrifie un fidèle et un vétéran avec son remaniement attendu mercredi. François Bonnardel est écarté du nouveau Conseil des ministres. Malgré une profonde déception, le député de Granby depuis 2007 n'a pas l'intention de claquer la porte. Il va terminer son mandat ministre de la Sécurité publique depuis 2022. Il était le seul représentant de la défunte Action démocratique du Québec autour de la table des décisions depuis la démission d'Éric Kerr en février. L'ADN de l'ADQ, parti que la coalition Avenir Québec a avalé en 2011, ne sera plus une composante du Conseil des ministres désormais. François Bonnardel avait pourtant signifié à M. Legault au cours des dernières semaines son intention de se représenter aux élections générales de l'an prochain, mais selon une source caquiste, l'élu de 57 ans avait été plus flou durant l'été. Des informations contradictoires sur ses intentions et des rumeurs de départ en 2026 circulaient. Sur cette base, ajoute la source, l'idée d'exclure M. Bonnardel du nouveau Conseil des ministres avait été retenue afin de libérer un poste et d'ajouter du sang neuf.
Tu verras, tout recommencera. Tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con. J'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers pleins les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras, le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Hop, tu verras, tout recommencera, tu verras, la vie c'est fait pour ça, tu verras, mon stylo emplumé de soleil, neigé sur le papier, l'archange du réveil. Je me réveillerai, tu verras, tout rayé de soleil à le joli forçat. Et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras, je crèverai le sommier, tu verras, en t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras. Jusqu'au matin du monde. Hop, tu verras, tout recommencera. Tu verras, le diable est fait pour ça. Tu verras, je ferai le voyou. Tu verras, je boirai comme un doux et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux de rosée et je t'insulterai dans du fer brisé. Je serai fou furieux, tu verras, contre toi, contre tous, et surtout contre moi, la porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, Mozart est fait pour ça, tu verras, entendra. Tu verras notre enfant étoilé de sueur s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs et revenir vers nous scintillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumer des clartés et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin des mondes. Ah, tu verras, tu verras.
Tu verras une chanson de Claude Nougaro.
intemporelle, comme vous le disiez si bien, André Lacombe. Chronique éphéméride du 9 septembre. André, vous commencez avec les prénoms du jour.
On commence avec les Alain aujourd'hui.
Alain.
Alain.
Les Alain à l'écoute.
On m'a souvent prénommé Alain, mais je ne sais pas pourquoi. Ah, ouais,
les comme gens si vous aviez un visage
Alain Lacombe.
Ah bon.
Non, André, pas Alain. Ça nous vient d'un ancien peuple de nomades guerriers établis principalement en Alanie.
Alanie. Ah oui.
C'est pour ça qu'ils s'appelaient les Alains. Ça se situait, celle d'Alanie, un peu au nord de l'actuelle Arménie, entre le 8e et le 13e siècle. Ouais. Et on fête aussi les Joachins et les Joachim, et leur équivalent féminin, les Kim. C'est la même racine. Mmh. En hébreu ancien, Joachim signifie « ressuscité par Yahvé », donc par Dieu. Et dans la religion catholique, Joachim, c'est l'époux de Sainte-Anne, donc le père de Marie et le grand-père de Jésus. Autre chose qu'on a appris ce matin. Et on fête aussi les Homer.
Homer de Serre.
Homer, c'est ce moi, je pensais à Homer Simpson. Mais bon,
ah oui, ah, mais lui, il l'écrit avec un H.
Homer, c'est ouais. Vrai. Homer Simpson. Mais ça doit être la même racine. Alors, Homer, c'était un évêque ayant vécu au 7e siècle qui a donné son nom à la ville de Saint-Omer dans le nord de la France.
Alors, maintenant, vous y allez avec les thèmes des deux journées mondiales. Du 9 septembre.
Du 9 septembre. Toujours d'abord la Journée mondiale de sensibilisation aux troubles du spectre d'alcoolisation fœtale, connue sous l'acronyme TSAF. Ça vise à mieux le faire connaître puis à améliorer sa prévention, son diagnostic et le soutien offert aux personnes concernées. Comme son nom l'indique, le TSAF est causé par l'exposition du fœtus à l'alcool et il provoque une incapacité à vie qui affecte le cerveau et le corps des personnes qui en sont atteintes. Donc, c'est très grave. Et sous l'égide de l'ONU depuis 1999, c'est aussi la Journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques. L'ONU exhorte les pays à investir dans des systèmes éducatifs résilients et à mettre pleinement en œuvre la déclaration pour les écoles sûres, les écoles sûres. Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, en 2022 et 2023, environ 6000 attaques ont visé des élèves, des enseignants et des établissements scolaires. Pardon. L'utilisation des écoles à des fins militaires a augmenté de 20 % et plus de 10 000 élèves ont été tués, enlevés, arrêtés ou blessés.
C'est énorme.
C'est triste. Ouais, c'est triste. Des sites de guerre, littéralement.
Ouais, c'est bon une journée, mais ça prend plus que ça.
Ouais.
Vous poursuivez avec quelques faits marquants qui sont arrivés un 9 septembre, le 9 du 9.
Le 9 du 9, 1615, on remonte loin en arrière, l'explorateur et coureur des bois français Étienne Brûlé découvre le site de la future ville de Toronto. Et Toronto, c'est un mot iroquois qui veut dire une bonne place pour les affaires.
Ah, c'est un nom prémonitoire. Super bien son nom.
C'est prémonitoire, ma parole. En 1666, c'est la fin du grand incendie de Londres qui faisait rage depuis 7 jours. La ville a été détruite à 80 %. Donc, on parle de 400 rues dévastées, 13 200 maisons et près d'une centaine d'églises, tout ça réduit en cendres.
80
catastrophique. Oui, 80 %. Il y a eu des grands incendies comme ça dans l'histoire. Il y a eu Chicago, en Amérique du Nord, qui a passé au feu comme ça à plus de 60 %. Tout était en bois et en paille, mm-hmm. Donc ça brûlait comme une boîte d'allumettes, quoi.
Notre collaborateur Serge Bradet nous parlait du grand incendie qui s'est déroulé à Rimouski dans les années 50.
Effectivement.
En 1668, qu'est-ce qui s'est passé?
L'Avare de Molière est joué pour la première fois au Théâtre du Palais Royal à Paris.
Hein? Wow! Quelle bonne pièce!
Quand même, hein?
Je vois Louis de Funès.
Oui!
La cagnotte! C'était-tu la cagnotte qui disait...
Je me rappelle.
Ma cassette.
Ah oui, ma cassette. Puis aussi, il y avait eu Gaston Lepage au théâtre, ici au théâtre Denise Pelletier. C'est vrai. L'avais vu au théâtre. Et Louis de Funès au cinéma.
En 1850, la Californie, qui avait été conquise 2 ans plus tôt aux mains des Mexicains, devient le 31e État des États-Unis d'Amérique. Il faut dire que le territoire du Mexique, là, jusqu'à la fin de la première moitié du 19e siècle, ça occupait la majeure partie de l'actuelle côte ouest, même ça s'en allait un peu vers le centre des États-Unis. Ça a radicalement changé suite aux guerres de cette période-là. En 1948, fondation de la République démocratique populaire de Corée, qui est le nom officiel de la Corée du Nord, c'est donc leur fête nationale aujourd'hui, en espérant qu'il y en ait quelques-uns qui aient quand même le cœur à la fête dans ce pays... qui n'est pas drôle tous les jours, je pense, pays totalitaire. La Corée est déjà séparée en deux à cette époque. Soviétiques au nord et Américains au sud se font face sur la ligne de démarcation, le 38e parallèle, et la guerre de Corée débutera à peine 2 ans plus tard, en 1950, et elle n'est toujours pas résolue. C'est pour ça que les tensions persistent entre les deux pays. En 1984, le pape Jean-Paul II entreprend à Québec son plus long voyage à l'étranger qu'il mènera d'un bout à l'autre du Canada dans toutes les provinces, sauf à l'Île-du-Prince-Édouard et en Saskatchewan. Et Jean-Paul II devient ainsi le premier pape à visiter le Canada. Il faut se rappeler de ça. C'était une première.
C'était la période aussi où Céline Dion avait chanté « Une colombe ».
Oui, au Stade olympique.
Oui, puis il y avait une grande chorégraphie. Une de mes sœurs en faisait partie, d'ailleurs. J'avais assisté à la répétition. Oui, je me souviens très bien. Alors, André, allez-y donc avec quelques anniversaires, quelques dates anniversaires.
Alors, du côté des anniversaires de naissance, on remonte encore plus loin, 1585, le cardinal de Richelieu. Alors, pourquoi revenir là-dessus? Parce qu'il a joué...
Oui, pourquoi?
Pourquoi, hein? Pourquoi?
Parce Why?
Why? Il a joué un rôle crucial dans la fondation de la Nouvelle-France en contribuant au développement de la flotte marchande et des compagnies qui ont permis cette grande épopée quand même. Donc, on est là en partie à cause de lui.
Bon.
Et il a également créé l'Académie française en 1634, ce qui n'est pas rien. Donc,
c'est bien important d'en parler.
Personnage historique très important. En 1828, Léon Tolstoï, un des écrivains majeurs de la littérature russe, auteur de grands romans, je dirais même de fresques, comme « Guerre et paix » et « Anna Karénine ».
Et un autre personnage historique, en 1890.
C'est très éclectique comme chronique. Là, ici, on parle du colonel Sanders, donc de Tolstoï.
Qui a fait la guerre du
colonel
poulet.
Colonel Sanders, la guerre du poulet. Qui n'a rien d'un colonel. Hein? C'est un personnage fictif qui a été créé par M. Arland Sanders, qui a été tour à tour conducteur de tramway, pompier, vendeur d'assurance, soldat, puis il a fini par se brancher en ouvrant un restaurant dans le Kentucky en 1930, et c'est là qu'il a développé sa fameuse recette de poulet frit qui l'a rendu célèbre mondialement.
Qu'on appelle le poulet frit Kentucky,
ah, oui.
Parce que ça a commencé dans le Kentucky.
Ça a commencé dans le Kentucky.
Ah, oh, Neil Chotem.
Eh oui, pianiste, arrangeur, chef d'orchestre, compositeur, établi à Montréal, mais né en Ontario, je crois. Connu notamment pour avoir travaillé comme chef d'orchestre avec de grands noms dans les années 50 et 60, de grands noms de la chanson québécoise comme Monique Lérac, Lucille Dumont, René Claude.
Et surtout...
Allez-y.
Ben, sa collaboration avec Harmonium.
Vous avez raison, oui, mais j'y venais. Non, mais je pensais qu'il y avait un autre nom de chanteur ou chanteuse illustre que j'avais.
Oui,
j'y arrivais en 1976. Il a collaboré avec Harmonium comme compositeur et arrangeur pour la création de l'Heptade, mythique album du groupe Harmonium.
Oui, chef-d'œuvre. Et on a entendu pas mal d'extraits en lien avec la mort de Serge Fiori, le 24 juin, et les gens ont recommencé à écouter du harmonium. Mais moi, j'ai jamais
arrêté. Ça n'a jamais passé de mode, harmonium, je crois.
Non.
On les a toujours entendus pour un instant. Ça a toujours resté...
Plus que pour un instant. Mais pour un instant, c'est très, très beau. Là, mais quand on écoute les albums, on est dans le plaisir. Dans la nostalgie aussi,
un peu. Dans la nostalgie, c'est sûr.
On l'entendait tantôt.
Claude Nougaro en 1929. Hein? Il y avait aussi le jazz et la java, que j'aime bien. C'était à cheval entre le jazz et la chanson populaire Nougaro. C'était vraiment
une bête
style,
de scène aussi.
Oui, un grand style. En 1941, un autre géant, mais de la musique soul américaine, Otis Redding, American. Il enregistre son plus grand succès, Sitting on the Dock of the Bay, seulement 3 jours avant sa mort. Son avion de tournée s'écrase.
Quelle tragédie.
3 jours plus tard, tuant les 5 membres du groupe. Clac. Fini.
C'est fou.
C'est fou, raide.
La vie.
Ouais, ça ne tient qu'à un fil. Oui. En 1948, l'auteur, poète, chanteur, prof de cégep, Alouette, Lucien Francoeur, décédé récemment.
Je t'aime, je te veux.
Nancy Baudouin.
Ah, oui.
Et autres grands succès. En 1960, l'acteur britannique Hugh Grant, acteur, grand séducteur qu'on a vu entre autres dans 2 films mettant en vedette le personnage de Bridget Jones.
On l'a reconnu dans 4 mariages et un enterrement.
Et un enterrement avec Julia Roberts.
Non.
Non, c'est Richard Gere qui jouait là-dedans, non?
Non, non, Richard Gere, c'était Pretty Woman. Ouais. Et Quatre mariages et un enterrement, c'est... attends, là, j'ai un petit trou de mémoire, mais ce n'était pas Julia Roberts.
Excusez nos égarements, chers auditeurs.
On ne s'égare pas, on est dans le sujet.
Donc, Hugh Grant, 65 ans aujourd'hui.
Oui. Alors, il était avec... On l'a-tu? Vite.
Andy McDowell.
OK.
Oui.
C'est vrai. Mais il a joué avec Julia Roberts aussi. Mais pas dans Quatre mariages et un enterrement.
Oui, films. Ça se passait à Londres, justement. Mais là, le titre ne me vient pas comme ça spontanément. Peut-être que notre ami Mathieu va faire des petites recherches pour nous. Mais j'ai quand même vérifié le lieu de naissance de Neil Chatham et ce n'est pas l'Ontario, mais la Saskatchewan.
Ah, d'accord.
Ouais, une autre province.
Province
canadienne.
Où le pape n'est pas allé.
Non, c'est vrai. Tout est dans tout ou tout est dans pas tout.
Ce matin.
Et du côté des décès.
En 1676, Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, fondateur de Ville-Marie, qui deviendra plus tard, bien sûr, Montréal. En 1901, le peintre, dessinateur et illustrateur français Henri de Toulouse-Lautrec, bien connu pour avoir illustré la vie du quartier parisien de Montmartre, affichiste très célèbre aussi. On se souvient de son affiche sur la danseuse La Goulue, entre autres, et d'autres.
Oui, c'était
d'autres,
beau, ça.
Qui célébrait certains spectacles du cabaret à Montmartre. En 1976, Mao Tse-tung, fondateur et dirigeant du Parti communiste chinois, il conduit une guerre civile qui mènera à la victoire des communistes en 1949, année de fondation de la République populaire de Chine. En 1978, le producteur, scénariste, réalisateur canadien Jack L. Warner, cofondateur avec ses frères de la compagnie Warner Brothers Pictures. En 2008, l'acteur, réalisateur et homme de théâtre québécois Richard Monnette, assez peu connu, je dirais, du grand public, mais un des piliers du Festival de théâtre de Stratford, en Ontario, qui est un des principaux festivals consacrés à William Shakespeare. Et en terminant, en 2017, le peintre, chanteur et animateur Tex Lecor, né Paul Lecor.
Un homme multitalentueux.
Multitalentueux.
Oui, Coup de foudre à Notting Hill, c'est le film qui mettait en vedette Hugh Grant et Julia Roberts.
Merci, Hélène.
Ben, merci à vous surtout, André Lacombe. On va se retrouver dans 2 semaines. C'est toujours un plaisir.
À
chronique
bientôt.
Vin, chronique voyage, chronique éphéméride.
Toujours une surprise.
Il a plein de choses à nous dire. Restez avec nous, chers auditeurs et auditrices.
Au revoir.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Besoin de quelqu'un ou d'un. coup du bon Dieu et l'on est deux sur son étoile. C'est idiot, mais on est heureux. On n'a plus besoin de quelqu'un, de quelque chose ou d'un ailleurs. On s'en fout bien, oui. On s'en fout bien. On n'a plus besoin de quelqu'un, de quelque chose.
Thérèse Moncalm, seule sur son étoile.
Grand succès de Gilbert Bécaud. Michel Poitvin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal, est au bout du fil pour sa chronique économie. Bonjour, Michel.
Bonjour, Hélène.
Michel, le gouvernement fédéral va venir en aide aux entreprises canadiennes affectées par les tarifs américains.
Oui, bon, on a parlé souvent des tarifs.
Oui, et on n'a pas fini d'en parler.
Non, malheureusement. Mais la semaine dernière, le gouvernement fédéral a annoncé la création d'un fonds de 5 milliards pour aider les secteurs qui sont vulnérables puis affectés par les tarifs. Donc, on parle surtout du secteur de l'acier, l'aluminium, là, qui subissent des tarifs de 50 %. Produits forestiers aussi, on n'a pas trop parlé, mais il y a eu des tarifs sur les produits forestiers canadiens et évidemment le secteur de l'automobile. Les termes sont flexibles, on n'a pas trop de détails comment l'argent va être distribué, mais on crée ce fonds. Puis hier, la ministre fédérale de l'Industrie, Mélanie Joly, a dit s'attendre à ce que des centaines de millions aillent au secteur québécois. Comme je le disais, des tarifs de 50 % sur l'aluminium, mais ce n'est pas seulement sur l'aluminium canadien, ce sont tous les pays du monde qui sont touchés par ces tarifs. Donc, on n'est pas désavantagé par rapport à d'autres pays, mais on est certainement désavantagé par rapport à des alumineries aux États-Unis. Puis aussi, quand les prix augmentent significativement, bien, la demande baisse. Alors, ça va affecter la production. Puis 70 % de nos exportations vont aux États-Unis. Et puis, dans ces exportations-là, mais la grande partie vient du Canada. Là, il y a 10 alumineries au Canada, puis il y en a 9, viennent du Québec. Il y a 10 alumineries au Canada, puis il y en a 9 qui sont québécoises. Donc, les alumineries ont hâte de voir à quoi ça va ressembler, là, mais il y a peut-être de l'aide qui s'en vient du côté du fédéral.
Mm-hmm. On les comprend, hein, d'avoir hâte. Michel, oui. Est-ce qu'il y a d'autres mesures mises en place?
Mais pour l'aluminium, il y a d'autres mesures là qui sont un peu floues. Là, on en parle, mais j'ai espoir que ça va se concrétiser. La ministre Joly a souligné l'importance d'une politique d'achat canadien. Ça, je pourrais y revenir de façon plus générale, mais notamment pour l'aluminium, donc encourager les projets publics à utiliser de l'aluminium canadien, puis notamment dans le secteur de l'habitation et de la défense. Puis elle nous dit que le Canada, c'est le seul pays du G7 qui n'a pas de stratégie industrielle de la défense. Alors, stratégie industrielle de la défense, c'est quoi? Bien, on essaye de justement identifier des industries locales là, qui pourraient participer là, ou contribuer aux investissements dans le secteur de la défense plutôt que de tout importer. Donc c'est ça. Elle dit qu'on devrait diriger nos investissements vers les entreprises canadiennes, notamment celles qui sont touchées par les droits de douane. Donc, certainement les alumineries. Mais de façon plus générale, Ottawa voudrait mettre en place une politique d'achat canadien obligatoire pour tous les organes de l'État. Évidemment, il ne peut pas la rendre obligatoire pour les entreprises privées ou secteur privé, mais pour tous les paliers de gouvernement, on aimerait ça dire, bien, achat canadien obligatoire, au moins quand il y a des substituts au Canada. Il n'y a pas de substitut au Canada, probablement il va falloir aller voir à l'étranger, mais vraiment là, faire ça. Aux États-Unis, ils ont quelque chose du genre. Là. Biden avait eu un projet de loi qui s'appelait le Buy American Act, là, où on disait qu'il faut vraiment favoriser l'achat local ou américain. Donc on dit que le Canada devrait peut-être se doter d'une politique semblable, puis on voudrait l'appliquer également aux provinces, puis aux municipalités, ou au moins les inciter à faire de même. L'autre petite mesure, mais le taux de chômage a augmenté au Canada. Les chiffres étaient sortis la semaine dernière, là, une légère hausse. On attribue l'augmentation du chômage au tarif en provenance des États-Unis. Donc, Ottawa, premier ministre Carney a décidé d'étendre la couverture de l'assurance emploi puis offrir jusqu'à 65 semaines de prestations quand tu perds ton emploi. Puis ça, c'est significatif, parce que c'est 20 semaines de plus qu'avant. Donc, avant, ceux qui perdaient leur emploi avaient 45 semaines d'assurance chômage. On va faire passer ça à 65 semaines.
Bonne nouvelle.
Puis, c'est ça. Oui, il l'a annoncé. Est-ce que c'est mis en place? Là, mais ça a été annoncé. Et puis, finalement, peut-être on pourrait parler du canola, la Saskatchewan est un des plus grands producteurs, certainement au Canada, un grand producteur de canola, puis même à l'échelle mondiale, le Canada laisse pas sa place. Et la Chine a imposé des tarifs de 76%, qui est significatif sur le canola canadien qui vient en grande partie de la Saskatchewan. Pourquoi la Chine a fait ça? Souvenez-vous, il y a peut-être un an ou deux, c'est quand Biden était là, le gouvernement américain avait imposé des tarifs de 100% sur les véhicules électriques chinois. Mm-hmm. Puis le gouvernement Trudeau avait décidé de suivre les Américains là-dessus, puis taxer ou tarifer les véhicules électriques chinois à hauteur de 100%, ce qui est à toute fin pratique réduit à zéro les ventes de véhicules électriques chinois au pays. Là, parce que 100%, c'est doubler le prix. Même s'ils sont pas chers, quand on double le prix, ben, ça fait quand même un bon montant. Les Chinois, la Chine est toujours comme ça. Hein, ils réagissent pas à chaud. Ils ont pris leur temps et tout. Puis là, sont arrivés une série de mesures, dont ces tarifs de 76% sur le canola. Premier ministre Carney a annoncé des incitations financières pour ouvrir de nouveaux marchés pour l'industrie du canola. Par exemple, développer l'industrie des biocarburants faits à partir de canola. Donc, il veut aider aussi la Saskatchewan. Parce qu'en Saskatchewan, c'est une industrie importante, le canola. Puis les Chinois, c'était leur client, leur principal client avec les États-Unis. Donc, 76%, ça faisait mal.
Bien, là-dessus, on va se laisser, puis on va tout suivre ça parce que c'est l'actualité qui suit son cours. Merci beaucoup, Michel, pour cette chronique. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonne journée, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.
Je pourrais faire de toi une marionnette, et maintenant faudra peindre tes petites lunettes. Je pourrais faire de toi une dame de roi, mais maintenant faudra craindre de ne plus me voir en toi. Ah non, je danse pas avec toi, non. Y'a des gens qui me voient de là-bas. Ah non, je danse pas comme ça. Y'a des gens qui me voient de là-bas. Laissez-moi faire de moi ce que je veux, c'est mon rêve. Es-tu prête à vivre mes échecs? T'es ma reine, t'es plus la princesse. Mais ce que je vois, c'est une gamine. Son gardien la retient dans les mines. Un jour, elle sera ma ballerine. Ma ballerine. Ta-ta-ta, ma ballerine. Ta-ta-ta, ma ballerine. Ta-ta-ta, ma ballerine.
Adam Elmouna et sa chanson « Ballerine ».
Oui, une très belle voix, celle d'Adam Elmouna, qui est en studio.
Hello!
Hello! Vous avez l'air de belle humeur.
Ah, oh, je suis bien. Je suis tellement content que tu m'aies invité, ma
chère. Ça me fait plaisir. Alors, tu peux me tutoyer, mais moi, je suis portée à vous voyer. Mais peut-être qu'à un moment donné, je vais te tutoyer.
Qui All right.
Ça commence tout de suite. Tu es le lauréat, le grand gagnant de la 57e édition du Festival de la chanson de Granby. Mm-hmm. Toutes mes félicitations.
Merci.
Est-ce que tu t'attendais à remporter les grands honneurs?
My God, on était...
Ton intuition, ta petite voix, là, qu'est-ce que tu disais?
Honnêtement, au moment, tu sais, tu me demandes ça, au moment où que le
verdict... Non, mais quand tu t'es inscrit, quand tout le processus...
Oui, mais je te le dis, je te jure, ça a vraiment fait au bas,
ah,
en
oui?
termes d'attente.
Montagne russe.
Ah, vraiment, vraiment. Au début, là, je m'inscris, puis là, je me dis, OK, genre, je suis là pour gagner.
OK.
Honnêtement, très honnêtement...
C'est le seul but.
Oui, parce que je vois les prix et tout, c'est ce qui m'amène, voilà, à y aller. Le deuxième objectif, c'est les formations. Et là, finalement... on rencontre les autres demi-finalistes. Puis je fais, OK, ouais, on va...
Il y a de la compétition.
Oui, il y a vraiment de la compétition. Ouais. On va baisser nos attentes, mais on va monter nos efforts. Puis c'était...
Mais il y a quelque chose de stimulant là-dedans. Là.
Tellement inspirant. Puis il faut... C'est comme... Ouais, c'était un gros challenge, mais au final, à la fin... J'étais prêt à entendre mon nom, mais je me disais que j'étais prêt aussi à être content pour les autres autour de moi,
oui.
Les autres finalistes, ouais.
Mais parce que vous avez déjà eu l'expérience de la voix,
oui.
Où vous étiez
concours.
Vraiment un des très bons, et
merci.
J'imagine que ça vous est aussi passé par la tête, ça se peut que je gagne, ça se peut que je perde, mais est-ce qu'on vous prépare à la victoire ou à la non-victoire, pour être content pour les autres, là?
Ben, un drôle de fait, non. Tu sais, genre, c'est... On dit mon nom, il fallait que je sers la main de la mairesse, je savais pas.
Ça, c'était Granby, là.
Ouais. Okay. Ah, excuse-moi, oui, on parle-tu à la voix?
Ben, je me demandais, on y reviendra à la voix,
Il y a des belles nuances, tu sais, à la voix, c'est sûr qu'on sait rien de rien. Et... On a toujours un sentiment, on a toujours une... On pense pouvoir gagner ou pas. Moi, j'ai toujours pensé me rendre en mm-hmm. finale. J'y ai cru, j'y croyais. Rendu en finale, loin de moi l'idée de gagner ou quoi que ce soit.
Comment ça, loin de moi l'idée de gagner?
J'ai voulu délivrer... À la voix, j'ai voulu délivrer... À la fin, ma dernière performance n'était plus une performance...
connecté avec ton cœur.
Dans la ligne.
Ah, oui.
Non, simplement dans le linéaire un peu de ce que je proposais. Puis on s'entend que c'est ça un peu l'important dans une, ben, t'sais, dans une grande carrière en général, c'est d'aller chercher ça, puis chercher des moments de contradiction parce qu'on est humain et c'est normal. Mm-hmm. En finale, j'ai décidé de briser ça juste en offrant quelque chose de théâtral. Et ça, c'était...
C'était quoi la performance? C'était quoi la chanson?
C'était « Ne me quitte pas ».
Ah,
tu l'as chanté dans une de tes entrevues il y a quelques jours, mais en tout cas, je m'en rappelle. Mais...
« Ne me quitte
ouais,
pas ».
Ouais, t'étais comme « Ne me quitte pas ».
Ah oui, hey, c'est super! On a Adam comme auditeur.
Non, oui, je t'ai écouté, mais bref, c'était vraiment le réveil. C'est Serge Deloncourt qui m'a dit « Écoute, toi, t'es un artiste, t'as tellement de choses à offrir. T'as le théâtral, viens, on va aller là. »
Ah oui.
Puis on va essayer d'aller dans l'interprétation, mm-hmm. ce qui m'a énormément aidé.
Mais Deloncourt n'était pas juge. Ah oh oui, c'est vrai.
Serge était le metteur en scène rendu au quart de finale. Il s'occupait de tous les candidats.
Oui, c'est vrai, je me souviens.
Incroyable.
Donc, tu as appris plein de choses qui t'ont amené à gagner finalement au Festival international
c'est
de la
ça.
Chanson de
Granby. C'est ça. Je veux pas, j'étais prêt. J'étais prêt rendu là. Après, quand j'ai gagné, ben, le petit détail, le petit drôle de fait, c'est qu'il fallait que je parle au micro. On me montre le micro, on me donne un trophée. Moi, excuse-moi, mais je savais pas qu'il y avait de trophée.
Le trophée Fabienne, hein? En l'honneur de Fabienne Thibault.
Oui, je le prends, il est quand même lourd. Puis là, on me dit, va au micro. Je dis, wow, là, j'ai rien écrit, je savais même pas qu'il fallait aller au micro. Je vais en avant du micro, je panique, je fais du beatbox. Non, je te jure.
Ça ressemblait à quoi?
Ça ressemblait à... Une affaire comme ça, OK? C'est la panique, mon corps parti.
Mais c'est une belle réaction. J'imagine que le public a apprécié.
Oui. Ma famille en avant.
C'est Adam! Ouais. Mais le Festival international de la chanson de Green Bay, c'est quoi exactement? C'est un concours de, pour les auteurs, compositeurs, interprètes. Et pour les interprètes, avant, il y avait vraiment deux catégories. Wow, puis là, c'est pas. Tout mêlé. Là.
Je savais pas qu'il y avait deux catégories. Là, il y a une seule et unique catégorie. Mm-hmm. Ils nous permettent d'arriver avec nos chansons. Ça doit être nos chansons. Pas de reprises. Et ils vont nous permettre de l'arranger avec un groupe de musique incroyable, ouais. de la maison. Et un metteur en scène, Robert Bellefeuille. Déjà, Robert Bellefeuille, si tu m'entends, tu es incroyable. C'est la première fois que je parle de lui en entrevue.
Un grand metteur en scène de théâtre.
Un grand metteur en scène. Et de théâtre et... Pour artiste aussi, je pense, ouais. que c'est deux choses différentes parce que là, on parle d'un chanteur qui est au service de son propre art. Uh-huh. Et là, lui, il a toujours travaillé, j'imagine, avec les acteurs au service d'une pièce. Mais là, il a été capable de vraiment me saisir comme ça.
Ça a été quoi le mot, la phrase qui a fait une espèce de déclic qui t'a aidé dans ta performance?
Ben, lui, à un certain moment donné, moi, je voulais faire du beatbox pendant ma demi-finale. Ça n'a pas fonctionné. On n'avait pas le temps, ouais. de travailler sur ça.
Tu l'as
ça.
Fait quand t'as reçu le trophée.
Je l'ai fait en... Ouais, voilà. Et en finale. Mais il m'a dit, là, en demi-finale, puis là, j'étais comme un peu... Je boudais. Pas je boudais, mais j'étais un peu perturbé. Je voulais vraiment mon beatbox en demi-finale. Je me disais que j'allais offrir quelque chose de cool. Il m'a dit, là, ton beatbox, là, mets-le toi dans le corps, OK? Puis tu vas danser, OK, à place?
Oui,
là,
oui, oui.
Voilà, j'ai commencé à essayer de, comme, bouger et prendre l'espace sur la scène, puis ça a été vraiment une belle expérience, là.
Mais c'était quoi la chanson? Est-ce que c'était Ballerine, c'était celle qu'on vient d'entendre? D'accord.
Et c'est lui qui a trouvé un peu aussi, il m'a aidé à trouver sens à ça à la finale, parce que je lui ai dit, hey, si je m'en vais en finale, je mets du beatbox. Comme, OK, on verra. Puis là, finalement, je vais en finale. Et là, il me dit, ton beatbox que tu vas faire, c'est que ça va être ton cri du cœur. Fait que ça va être boum, 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 boum. Fait que là, moi, pendant la prestation, je fais ma ballerine, mon cœur, il fait... Et là, wow. on repart sur la musique. Puis là c'est comme... On a montré une nouvelle facette un peu au niveau de la performance pour cette chanson. Puis, ouais.
Et lors de la dernière performance, ben, la performance qui a fait en sorte que tu as remporté, ouais. les honneurs, ouais. est-ce que tu te sentais complètement en confiance? C'était quoi ton sentiment? Parce que je sais que tu es arrivé un peu enrhumé.
Très fébrile, très, très, très fébrile. Je me tenais sur ma petite répète de comme 15 minutes avant la perfo, ma confiance, c'est-à-dire, là, moi, mm-hmm. je vais souvent me rappeler de mon moment fort de la journée, sur quoi je peux me retenir, puis espérer, puis y croire, puis c'était ma petite répète de 15 minutes où ma voix allait comme il faut, là où ce que je voulais,
ouais.
mais ce matin, le matin même de la finale, j'avais pas de voix. Donc, c'était une heure et demie.
Ah, non!
Oui, oui, oui.
Ah, t'es arrivé enrhumé, hein?
C'est... Je suis arrivé enrhumé, mais je suis arrivé aussi avec un début de COVID.
Pas vrai.
Je te jure, ça allait pas bien. J'avais mal partout, mais ça, j'étais capable. L'adrénaline m'a aidé. Mais l'affaire, c'est que j'ai perdu ma voix à la répète du matin de la finale. On doit chanter les trois chansons. Moi, je suis comme ça. T'es ballerine. Sur le micro, tu sais, je peux pas chanter. J'ai pas de voix. Puis si j'essaye, j'ai un gros risque de me blesser. Donc, ouais. au final, j'avais jamais un verdict pendant la journée de « OK, je suis capable de clencher les trois chansons. » Une à une, puis parler, puis pas tousser. Puis...
Hey, il y a vraiment du suspense là-dedans.
Vraiment. Ben, avec l'expérience, je savais que l'adrénaline... peut faire des miracles. J'ai bu énormément d'eau et une heure et demie d'échauffement dans la douche. Chaud, 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 chaud. Ouais, ça a aidé. Oui, ça l'a, ouais. aidé.
Avec
ça.
L'expérience, tu n'as que 24 ans?
22.
Ah, 22?
Excuse-moi.
J'ai lu quelque part que tu avais 24. Je m'excuse de t'avoir vieilli.
Non, il n'y a 22. Aucun problème. Moi aussi, je les ai vus, les articles.
Oui, hein?
Mais il y a zéro stress. Je pense que c'est même moi qui m'ai trompé. J'ai dit 24 pour un autre chiffre.
OK, tout est ta faute.
Je te jure, c'est... J'adore.
Mais 22 ans, ça veut dire que ben, tu es jeune, c'est, oui. tout est relatif. Hein?
Oui.
Mais comment tu es arrivé dans le métier? Comment la chanson est arrivée dans ta vie?
Ouais, j'étais quelqu'un assez jeune. J'étais très proche de mes parents, ma mère, mon père.
Tes origines sont marocaines?
Oui, oui, mes origines sont marocaines. Donc, veux, veux pas... Ben, tiens, à la maison, on parlait français. Mais
à la maison où?
Chez moi, à Sainte-Catherine.
Oui.
Ouais, à la maison, on parlait français, mais dès qu'il se fâchait, on parlait arabe. Mais on parlait français.
Il n'y avait pas de beatbox, là.
Non, il n'y avait pas de beatbox, non. C'était vraiment, quand on s'exprimait avec passion, c'était en arabe, puis j'ai appris de là un peu la langue, la culture en y voyageant. Mais bref, d'où cette carrière me vient, c'est vraiment de ma mère.
Oui.
Elle m'a proposé, en voulant me donner une preuve irréfutable de ce que je pourrais offrir au monde, elle m'a offert des cours de chant. Elle m'a dit, regarde, tu pourrais faire des cours de chant.
Est-ce que tu as dit oui tout de suite?
J'ai pas dit oui tout de suite, j'ai pas compris. J'ai pas compris c'est quoi.
Tu chantais pas à la maison?
Je rappais. Je faisais du Big Flo et Ali, deux rappeurs en France,
oui.
Frères en France. Ils sont super. Ben écoute, en France ou en Belgique, en tout cas.
Ouais.
Mais ils.
Donc ta mère t'entendait rapper?
M'entendait, je rappais et tout. Puis là, à un moment donné, justement, elle m'a fait faire des cours de chant avec un prof de chant. Puis là, le premier cours, ça s'est bien passé. J'ai aimé ça. Le deuxième, dans la même semaine, c'était pas supposé d'être ça. Et là, deux, trois jours après, elle me reprend dans un cours. Puis là, je comprends pas pourquoi j'en fais bac à bac. Puis là, le quatrième, elle me dit, mon prof, tu voudrais-tu faire un spectacle? Je t'ai mis quatre cours parce que justement, on a le spectacle de fin d'année. Puis toi, tu t'es embarqué en fin d'année. J'ai fait quoi? Puis là, ma mère a fait, dis oui! S'il te plaît, vas-y, dis oui. Puis là, je dis, OK, ben, c'est bon. Là, j'y vais, je me lance. Les lumières sur ma face, je chante. Puis j'étais même pas stressé. Pour de vrai, mon début de vie de chanteur, c'était vraiment un début comme un enfant qui réalise pas qu'il est sur stage. Puis il est pas gêné. J'étais pas gêné. Je chantais, j'essayais pas d'être bon. Je faisais juste ce que j'ai travaillé avec mon prof.
Mais est-ce que t'avais du plaisir?
J'avais du plaisir à voir les réactions des gens.
Ah oui?
Les sourires, les gens qu'ils appréciaient vraiment. Donc,
est-ce que c'est là que tu t'es dit, moi, je sais ce que j'ai envie de faire pour vrai?
Absolument. Ça, c'était comme mon premier spectacle. C'était un peu comme dans les films. La lumière, sa face. J'adore ça. Puis après, veux pas, j'ai continué à faire des cours. Puis là, les gens ont commencé à m'étiqueter comme un chanteur. Puis je chantais partout. À l'école, à la maison, dans le bus. Tout le temps. J'étais pas timide.
Alors, on dit un grand merci à maman.
Un grand merci à maman. Je t'aime, maman.
Et puis, qu'est-ce qui arrive avec vous, Adam, là? Parce que vous avez gagné le Festival international de la chanson de Green Bay. Il y a de l'argent, il y a de la formation. Qu'est-ce que ça vous donne? Puis c'est quoi, là, votre... Je sais pas, comment vous envisagez votre avenir?
Absolument. Ben moi, je suis vraiment content. Il y a une subvention incroyable de 25 000.
Ah, c'est 25 000?
Oui, voilà, okay. C'est ça. Et c'est, dans le fond, c'est comme une subvention. Donc, on installe un plan... pour la carrière. Donc, c'est pas de l'argent que je peux mettre dans mes poches. C'est vraiment de l'argent que je peux dédier à ma carrière. Et à quoi, spécifiquement, je vais te le dire, des spectacles, énormément de spectacles en 2026. Ça va être incroyable. Et plus d'une chanson pour la première fois. En 2026, je vais pouvoir sortir plus qu'une chanson.
Es-tu en train d'écrire,
oui,
de composer?
En ce moment, on se dit... C'est que la composition avant 2026. Fait que je travaille très fort pour faire toute cette belle musique qui va sortir très prochainement.
Bien entouré, j'imagine.
Ah, très bien entouré.
Ta mère toujours tout près de toi?
Toujours tout près de moi.
Est-ce que tu continues tes cours de chant?
Je continue toujours mes cours de chant, mais un petit peu moins. Mais il faudrait que j'en fasse un peu plus. Tout le temps.
Ça demande de la discipline. Hein?
Tout le temps.
Puis on salue aussi les gens qui étaient en compétition avec toi.
Oui.
Charlie Rose, Maë, la Grambienne, Maud Lou et le groupe Théo. Est-ce gardes contact avec eux?
Absolument. Théo, c'est mon gros coup de cœur. C'est des gens que je vais sûrement travailler avec eux éventuellement.
Ça demande de la générosité, hein? Parce que quand on a l'esprit de compétition, oui, ça peut être stimulant, mais faut que ça soit sain là, comme compétition.
Absolument. Ils ont tous leurs petits trucs, ils ont toutes leurs petites étoiles, puis vraiment tout aussi inspirant l'un que l'autre.
Alors, un grand merci, Adam Elmouna, pour cette entrevue. Puis,
merci.
On va avoir l'occasion de se retrouver en quelque part. Peut-être que je vais être assise à un moment donné dans une salle de spectacle pour te assister à tes prestations,
un grand
beatbox,
plaisir.
Mais aussi ta très belle voix et découvrir ta création, ton œuvre, finalement.
Merci.
Ce n'est qu'un début, il n'a que 22 ans, on vous le rappelle, chers auditeurs. Puis on va te réinviter parce que...
Avec grand plaisir.
C'est agréable de jaser avec toi.
Merci beaucoup, ma chère.
Quotidien avec Hélène Denis.
Un peu comme on lance un ballon sonde, je t'envoie des nouvelles de l'autre monde. Rien ne fit si tout va pour le mal, ça frôle la guerre mondiale. La planète est à Dieu et à craint, et comme les gens seront toujours les gens, ce qui se rapproche le plus de l'infini, ça reste l'humanité. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. Oh, oh, oh. Un peu comme on lance un ballon sonde, je t'envoie des nouvelles de l'autre monde. Ici, on se nourrit de mirages en guise de bons présages. Changer chacun dans sa niche. Les pauvres seront pauvres et les riches seront riches. Les créateurs de contenants stupides nous scellent l'âme sous vide. Sinon tout va très bien pour la haine. Qu'est-ce que tu veux, l'horreur est humaine. Comme on dit, ça prend beaucoup. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. Tout est plus triste depuis. Tellement plus triste depuis. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. Oh!
Monsieur Posé, sa chanson Ballon Sonde.
Ouais, émouvant comme chanson. Et on s'en va à Maria. Je pense qu'elle est là. Bonjour Anne-Marie Aubin.
Oui, bonjour Hélène.
Alors Anne-Marie, vous avez lu un livre quelque peu original. Passage.
Très original.
Oui, oui, très original. Passage qui est écrit au pluriel avec un S.
Oui, de Alex Landragin. Ça a été traduit par Caroline Nicolas chez Alto. Un livre de près de 400 pages, 380
pages. Ah, quand même!
Et sous le titre original, c'était « Crossing » au pluriel, qui s'est paru en 2021. Et on comprend que ça a dû être quelque chose à traduire. C'est pas simple, ce livre-là.
Dites-nous tout!
J'ai découvert le livre par un petit carnet que les libraires offraient gratuitement. C'était la préface. Et c'est un petit carnet avec une couverture rouge. Et la première phrase disait « Je n'ai pas écrit ce livre, je l'ai volé.
Oh. »
Alors, c'était très intriguant. Et l'objet livre est très beau aussi. Il a une couverture cartonnée rouge avec de l'or. C'est gaufré. Et la tranche est illustrée en noir et blanc. On appelle ça jaspé. Comme dans les livres anciens, autrefois, il y avait de l'encre. Et on dit que c'était pour protéger de la poussière, ça, qu'on mettait ça sur la tranche des livres. Et sur la page couverture, dans un cercle, on voit un œil qui nous regarde dans le coin, comme un espion qui regarde dans le trou d'une serrure. Mais à la lecture, on comprend toute la symbolique de l'œil dans ce livre-là. Alors, qui est cet homme? C'est son premier roman. On ne le connaît pas. Il est né à Paris. Il a vécu un peu partout. Il a beaucoup voyagé. C'est quelqu'un de très instruit et qui a écrit, entre autres, des livres pour Lonely Planet. Donc, il a voyagé beaucoup. Et ça paraît, ça se sent dans l'écriture. Puis l'éditeur dit que ça pourrait être ce roman-là, L'enfant illégitime d'Anne Rice et Carlos Ruiz Zafón. Je n'ai pas lu Anne Rice, mais j'ai lu Carlos Ruiz Zafón et effectivement, il y a des points communs. Si vous avez aimé Zafón, vous allez aimer ce livre-là aussi. Alors, il faut savoir que ça se raconte pas parce que c'est un livre qui se lit de deux façons. De la page 1 à la fin ou selon les conseils de l'autrice, mais la collectionneuse qui avait le manuscrit. Alors, un relieur qui s'appelle Alex Landragin comme l'auteur, qui est fils de relieur, vit à Paris et reçoit un manuscrit d'une fidèle cliente qu'appelle la baronne, qui est une riche bibliophile, qui aime beaucoup investir sur les reliures de livres, puis elle lui envoie un manuscrit. Il y a quelqu'un qui arrive en moto avec un casque, on ne sait pas c'est qui, et il y a des ordres. Il ne doit pas lire le contenu. Il y a une peau de cuir rouge qui est associée à ça, 7 perles et une miniature sur corail où il y a un œil ouvert. Les pages sont un peu défraîchies, froissées. Et puis là, ben le monsieur reçoit ça, le relieur. Puis à un moment donné, il l'appelle parce qu'elle exige toujours une consultation avant de faire quoi que ce soit. Puis au moment où il l'appelle, une semaine plus tard, c'est un homme qui répond et qui lui dit qu'elle est décédée dans son sommeil. Alors, il est tellement surpris qu'il oublie de parler du manuscrit. Quand 2 jours plus tard, il rencontre une bouquiniste qui dit non, elle n'est pas du tout endormie dans son sommeil, elle a été assassinée, on lui a arraché les yeux. Ah. Oh là là! Alors là, le temps passe, il se dit que le notaire va peut-être donner les consignes, pas du tout. Alors, il finit par s'approprier le livre, décider de le publier sous son nom, donc il a volé le livre, et il le lit. Sa femme aussi le lit. Et elle lui dit, as-tu remarqué, sous le titre, il y a des chiffres.
Il y a des quoi?
Il constate des chiffres.
OK.
Une série de chiffres qu'on ne sait pas trop pourquoi c'est là. Et elle dit, moi, je pense que c'est parce qu'il faut le lire dans l'ordre des pages qui sont indiquées là. Alors, c'est un choix, effectivement, qu'elle va faire. Et bon, alors, qu'est-ce que c'est que ce manuscrit? Un, le premier, c'est l'éducation d'un monstre, un texte inédit de Baudelaire. 2, la cité des ombres, un roman noir de Walter Benjamin, auteur allemand. Et 3, un conte qui s'appelle L'Albatros, qui serait une autobiographie d'une femme immortelle. Alors, ça fait 3 textes très différents qu'on peut lire un après l'autre et ça devient un recueil de nouvelles ou de contes. Mais si on suit l'ordre des chiffres, et là, on est dans un roman, selon toujours le relieur qui dit ça.
Qu'est-ce que vous avez fait, vous, Anne-Marie?
Qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait, Hélène?
La deuxième option. Vous avez opté pour le roman.
Non.
Ah non?
Oui, c'est ça. Oui, j'ai pris les pages de la baronne.
Oui,
je me suis lancée là-dedans. Exemple, on nous dit, commencez à la page 187. La première phrase, c'est ainsi que l'histoire se termine. Ça commence comme ça. Ensuite, on nous envoie à la page 71. Puis, à la page 197, là, on comprend le titre. Fait qu'il faut être patient, là.
Ah oui.
Et ça dit que le passage, le titre, c'est un transfert des âmes qui se passe quand on regarde quelqu'un dans les yeux pendant quelques minutes d'une façon très intense. Je cite, « Au cours d'un passage, on entre dans un corps et on hérite de ses capacités et de ses incapacités, de ses appétits et de ses inclinations. Mais on entre également dans un esprit. Alors, lorsque je procédais au passage avec feuilles, j'apportais tous les souvenirs que j'avais accumulés au cours de mes 2 vies précédentes et j'héritais également d'un corpus de nouveaux souvenirs, ceux de ce nouveau moi, de tous ses plaisirs, afflictions, ses qualités et ses défauts. » Alors, on comprend que les personnages passent d'un état à l'autre, comme ça. Il y en a une qui va avoir 7 vies, d'où les 7 perles sur le couvercle. On est un petit peu dans le domaine du conte, dans l'univers fantastique. Mais lire de cette façon-là, c'est assez étrange. Il faut s'abandonner complètement à ne pas essayer de comprendre.
Oui, mais comment on fait pour suivre la pagination? Est-ce que vous avez une feuille à côté de vous?
Non, c'est que quand on arrive à telle page, à un moment donné, on nous dit, il y a une petite main qui nous dit « à la page 71 », à la page... Alors, on suit le petit symbole qui nous dit où aller, mais là... Moi, quand je sais que je dois lire un livre pour telle date, je divise un nombre de pages en nombre de jours, mais là, j'avais aucune idée où j'étais rendue, combien j'avais eu de pages. T'as plus de référence.
Déstabilisant.
Oui, il faut vraiment s'abandonner, c'est vraiment intéressant. Et ça vraiment, ça nous dépayse parce qu'on change dans le temps, dans l'espace, on se promène dans différents pays, dans différentes époques, et on s'aperçoit qu'il y a des liens. Après un certain temps, OK, on comprend le tricot de cet auteur extraordinaire qui nous a fait un ouvrage tellement original qui nous amène ailleurs complètement. Et pour nous retrouver, pour pas qu'on se perde là-dedans, d'abord, il faut lire attentivement. Moi, j'ai pris des notes. Et puis aussi, ben, il nous donne des indices. Il nous donne des dates, il nous donne des lieux. Aussi, il y a des personnages qui, des fois, vont dire, ben, raconte-moi donc ça. Puis ça, on le sait déjà parce qu'on l'a lu ailleurs. Donc, on fait un puzzle, un casse-tête avec tous ces morceaux-là pour enfin comprendre comment est-ce que les choses ont évolué quand on va d'un chapitre à l'autre. Parce que les trois textes sont divisés en petits chapitres. Et quand on nous fait valser, on est autant dans l'histoire 1, 2 ou 3, là. On se promène dans le temps et dans l'espace et on va rencontrer des choses vraies, comme la guerre, comme la colonisation, le colonialisme. On va passer à Bruxelles, en Polynésie, on s'en va à Paris, on rencontre Charles Baudelaire, Walter Benjamin, Coco Chanel. Bref, c'est passionnant. Si on aime la littérature, on est dans un manuscrit, on est dans l'écriture, et en même temps, le fantastique, une petite intrigue policière, parce que pourquoi on arrache les yeux à cette femme-là quand on l'a tuée, elle qui collectionne des manuscrits, qui est une férue spécialiste de Baudelaire, c'est quoi le lien? Bon, on a des heures et des heures de lecture pour comprendre tout ça. C'est bien fait, c'est habile, et puis aussi, ça nous tient en haleine, parce que, bien sûr, je ne veux pas tout dire, là, mais ces transferts-là vont se faire parfois d'un homme à une femme et d'un homme d'une époque à une autre, à un plus jeune, voyez-vous. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que le début de tout ça, c'est une histoire d'amour. On est sur une île dans très lointaine où il y a un couple qui s'aime beaucoup et qui savent qu'ils peuvent faire le passage. Puis il y a un personnage qui, à un moment donné, en a assez et décide que, bon, ben lui, là, il va aller voir, il y a un bateau qui arrive sur l'île. Il va aller voir le chirurgien, puis il veut faire un échange. Et son amoureuse dit, oh non, je ne vais pas le laisser partir seul, je vais l'accompagner moi aussi. Alors, ça commence comme ça, dans la chronologie, là. C'est pas le premier chapitre, mais chronologiquement, on comprend que ça a commencé en 1791, je pense. Et là, elle va faire, elle aussi, un passage. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à un peu séduire quelqu'un, assez pour qu'il nous écoute et nous regarde dans les yeux quelques minutes. Et là, on sent quelque chose qui se passe. Puis c'est tout bien décrit, qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment intéressant. Et là, elle aussi va donc voyager dans le temps. La nuance, c'est qu'il y a une personne qui se souvient de tout et l'autre qui a tout oublié. Parce que le passage ne s'est pas tout à fait bien réalisé, concrétisé. Alors, tout au long de l'histoire, on suit ces gens-là qui vont prendre différentes identités et qui vont vivre dans différents lieux. Et là, pour s'y retrouver, ben, il y a des petits fils magiques là, que l'auteur a très bien su faire entre les différents épisodes. Donc, si vous aimez l'aventure, vous le lisez comme ça. Si vous êtes plus traditionnel dans votre façon de lire, vous lisez les trois. Mais là,
on peut faire les deux.
Oui, moi, après que j'ai eu fini, j'ai dit, bon, ben là, j'ai envie maintenant de les lire chapitre par chapitre,
ouais,
pour être sûr qu'il n'y a rien qui m'a manqué là-dedans. Mais on finit par tout lire dans le désordre, finalement. Donc, bravo à ce livre qui ressemble à rien de ce que j'ai lu. On peut penser que ça ressemble au livre dont vous êtes le héros, sauf que dans les livres dont vous êtes le héros, on avait des choix, on allait là. Là, on n'a pas vraiment choix. On suit et on tricote.
Mais le choix vous avez, c'est d'aller vers la lecture classique ou vous aventurez là, dans la pagination, dans le désordre. Là.
C'est ça, exactement. Et là, ça demande beaucoup plus d'attention si on prend l'autre, parce que on passe d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre. Ça se déroule sur à peu près 150 ans, les différents épisodes. Donc, évidemment, il y a des références historiques. J'ai été voir, par exemple, est-ce que ça se peut, ça, en telle année, c'est-tu vraiment arrivé là? Et il y a vraiment des indices comme l'Exposition universelle de Paris, des Jeux olympiques de Paris, la guerre, le colonialisme et l'esclavage dans les pays où ils ont cultivé le coton. Donc, on bouge beaucoup. Bruxelles aussi, ça va être très intéressant. Puis, il y a des faits réels qui sont arrivés à Baudelaire et à travers l'histoire. et qui sont vrais, sauf que pour arriver à toute cette histoire-là, bien sûr, l'auteur a su faire une trame pour que ça ressemble à un roman à la fin. Mais il faut être patient, là. Il faut lire 3-4 chapitres avant de vraiment être sécurisé au début. Ouais. On est un peu... Oui, et puis là, par exemple, là, je me disais, mais je sais pas si je suis avancée dans mon histoire, parce que moi, je devais finir... d'habitude, je finis dimanche pour être capable d'en parler le mardi. Et là, j'essayais d'accumuler le nombre de pages que j'avais lues. Alors ça, c'est très amusant. Puis à un moment donné, oups, c'est un tout petit chapitre de rien, puis c'est écrit fin. Alors, ça y est, j'y étais. Mais sans savoir du tout, là, contrairement à quand on met notre signet, où est-ce qu'on en est dans notre lecture.
Avez-vous lu un peu sur l'auteur, Alex Landragin? Savez-vous si il veut continuer dans ce sens-là?
Sa création? J'en ai pas la moindre idée, non. D'abord, c'est un livre qui a été traduit parce qu'il l'a pas écrit en français. Donc, il y a peut-être déjà un manuscrit en route, mais c'est une personne qui va faire un succès fou là avec ce livre-là.
Ah oui, partout, la critique est vraiment dithyrambique, là. On parle de chef-d'œuvre, oui. Même.
Et puis le livre, l'objet, quand on le reçoit, on est tout épaté parce qu'on dirait un vieux livre,
oui.
Avec une reliure. Moi, j'ai vu ça parce que j'aime bien les livres du 19e siècle avec des tranches toutes sortes de couleurs. Et puis justement, il y a beaucoup question des bouquinistes là-dedans, des manuscrits, de l'écriture, de ce qui reste après qu'on va laisser aux autres, de la mémoire, de la transmission. Alors, passage au pluriel, c'est qu'il s'en fait plus d'un passage à travers le texte. Et tous ces beaux personnages sont attachants. Et puis, on essaie de deviner où l'auteur nous emmène. Et donc, ça fait qu'on est toujours attentif. C'est une lecture qui est très exigeante sur le plan de la concentration, mais en même temps qui nous amène dans l'univers du conte, dans l'univers du fantastique, du policier. C'est impossible à résumer, vous comprendrez, puisqu'il y a toutes sortes de choses là-dedans.
Ah, vous l'avez bien fait quand même. L'œil sur la page couverture là, est très inquiétant, je trouve.
Oui, oui cet œil-là, justement, on comprend toute sa symbolique quand on lit l'histoire. Il y en a partout des références à l'œil. Alors, c'est une structure très innovatrice.
Vous conseillez cette lecture-là à qui particulièrement? Est-ce que vous avez pensé à un lectorat spécifique?
Ben, tous les amants de la littérature, des textes de Baudelaire ou de cette époque des poètes maudits, tous ceux qui aiment la France et Paris, mais peut-être ceux qui, quand ils étaient jeunes, ont fait les livres dont je suis le héros, qui maintenant ont l'âge adulte et puis vont trouver quelque chose d'amusant là-dedans. Mais je dirais que c'est pas un jeu où on intervient. C'est un casse-tête où on construit, contrairement au livre dont on est le héros.
C'est pas interactif.
Non, pas du tout.
Bon. Alors, passage par Alex Landragin, ce livre-là a été traduit par Caroline Nicolas et c'est publié aux éditions Alto. C'est quand même costaud, là, 393 oui. pages. Vous l'avez lu, vous êtes passé au travers et au moins vous avez pris votre pied, comme on dit.
Et je dirais, oui, des heures de plaisir, parce qu'il faut lire ça lentement, là.
Oui.
C'est très intéressant.
Bon, bien, merci beaucoup, Anne-Marie. Puis la semaine prochaine, vous nous revenez avec quoi? Là, c'est une surprise jusqu'à maintenant?
Ça sera des livres pour les jeunes la semaine prochaine.
D'accord. Bonne lecture. À bientôt.
Au revoir.
C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Et Léonore attaquait le thème au piano. On trouvait ça tellement beau qu'on en oubliait de jouer pour l'écouter. Elle s'arrêtait brusquement et nous regardait du haut de son tabouret. Elle disait reprenez à fa mi fa mi ré. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Souviens-toi qu'un violon fut jeté sur le sol, car c'était toujours le seul qui gênait Nicolas quand il était bémol. Quand les voisins commençaient à manifester, c'était l'heure du goûter. Salut Jean-Sébastien et à jeudi prochain. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Un jour, Éléonore a quitté la maison en portant le diapason. Depuis ce jour, nous n'accordons plus nos vies.
dispersée, la fugue seule est restée. Mais chaque fois que je l'entends, c'est le printemps. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était malhabiles, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois.
Bon, jusqu'à la dernière note, c'était Maxime Leforestier, La Petite Fugue.
Dans le soleil d'aujourd'hui, deux sœurs deviennent sourdes pour aller au Japon. Les sœurs Clémence et Marguerite Morissette se préparent à participer aux Jeux olympiques des sourds à Tokyo. Marguerite et Clémence entendent depuis qu'elles sont bébés, mais les sœurs Morissette retrouveront leur surdité de naissance le temps d'un tournoi de badminton aux Sourlympiques. C'est un peu comme une légende urbaine pour moi. Je savais que ça existait, mais je ne connaissais personne qui était allé, s'exclame Marguerite, sur sa participation à venir en novembre aux Jeux olympiques des sourds. Les Sourlympiques, même née complètement sourde et athlète assez performante en badminton, la jeune femme n'avait jamais vraiment eu connaissance de la plus ancienne compétition mondiale multisport après les Jeux olympiques. Jusqu'à cette année, a-t-elle expliqué, assise à la petite table en bois de son appartement du quartier Saint-Sauveur à Québec. Elle et sa sœur Clémence, aussi sourdes de naissance, s'embarqueront bientôt pour le Japon, plus précisément à Tokyo, où se réunissent du 15 au 26 novembre environ 4000 athlètes sourds en provenance de 80 pays. Les deux filles originaires de Lens-au-Griffon, village de la pointe de la Gaspésie, portent un implant cochléaire depuis un très jeune âge. Cette prothèse leur permet de vivre de façon à peu près normale malgré ce handicap invisible. Marguerite, 26 ans, fait son doctorat à l'Université Laval à Québec. Sa thèse porte sur l'habitat des orignaux. Clémence, 24 ans, est vétérinaire à Rimouski. Personne d'autre dans la famille Morissette n'est malentendant, ni leurs parents, ni la petite dernière, Rosabelle, qui a 18 ans. Elle ne parle pas la langue des signes, mais tout ce beau monde joue au badminton. L'audition est un aspect important en badminton, fait valoir Marguerite, pour te préparer à recevoir le volant. Les joueurs se fient au son quand l'adversaire frappe. Tu peux saisir à peu près la force, le type de coup, même la direction. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas accessible pour moi, même avec mon implant. En double, il s'avère déjà compliqué de communiquer avec son partenaire en pleine action. Imaginez sans implant. Vous l'aurez deviné, au jeu des sourds, les athlètes doivent être sourds, c'est-à-dire avoir une perte auditive d'au moins 55 décibels dans la meilleure oreille. Elles devront donc laisser leur implant au vestiaire. C'est vraiment particulier. En tant qu'implanté, habitué à entendre toute sa vie, malgré le fait que je sois sourde, c'est un autre défi, indique Marguerite Morissette. Elle anticipe certaines facilités en simple, comme être dans sa bulle plus facilement. En même temps, son entraîneur va vouloir lui parler pendant le match et les pauses. Ça, c'est son appréhension. Mais pour le jeu en double, elle trouve ça vraiment spécial, laisse-t-elle tomber. Pour le Canada, 48 athlètes doivent participer au 25e Sourds olympiques d'été. Dans deux mois, on compte 10 Québécois, dont 4 skieurs. Ça, si le financement est au rendez-vous, mais rien de moins sûr. L'Association des sports des sourds du Canada a comme pour objectif d'amasser 100 000 $ pour payer la moitié des frais de voyage des membres de la délégation, qui compte aussi plusieurs entraîneurs et interprètes. La cagnotte commune s'élève pour l'instant autour de 57 000 $. À 5 000 $ par personne, certains athlètes canadiens devront carrément annuler leur participation aux Jeux. Lors des Sourlympiques de 2022, au Brésil, 12 athlètes n'ont pu faire le voyage. Cette année, ce sont déjà 3 athlètes qui devront renoncer aux compétitions à Tokyo, déplore par écrit le directeur général de l'association, Alain Turpin. Mais pas les sœurs Morissette. Elles peuvent déjà obtenir les fonds nécessaires ailleurs. Leurs parents les accompagneront au Japon. Tout comme le chum de Marguerite, elles en feront une expérience familiale. Cela ne l'empêchera pas d'être au sommet de sa forme pour l'occasion. Elle met présentement les bouchées doubles avec des cours privés sur le court, des séances à la salle d'entraînement physique et beaucoup plus de temps de jeu prévu ces prochaines semaines. Marguerite espère que sa participation à Tokyo 2025 lui ouvre d'autres horizons dans l'univers des sports, des sourds pour l'avenir. Certaines étoiles des Sourlympiques ont participé aux véritables Jeux olympiques, comme le nageur sud-africain Terence Parkin, médaillé d'argent olympique aux 200 mètres brasse en 2000. Les Québécois inscrits aux Sourds olympiques 2025 sont Jérôme Blanchette au tennis de table, François Couture, quille, Gilles Gravel au quille, Sacha Lahoun au golf, Alex Lallier-Tréjeau au tennis, Claude Larose les quilles, Clémence et Marguerite Morissette badminton, Marilyn Nadeau les quilles et Steven Okito au basketball. La Coalition des personnes handicapées du Nouveau-Brunswick met en lumière les nombreux défis qui touchent les écoles du Nouveau-Brunswick en matière d'inclusion. La rentrée scolaire est bien entamée dans la province. Malgré le statut inclusif du système d'éducation, la Coalition des personnes handicapées du Nouveau-Brunswick constate qu'il est encore mal préparé pour répondre aux besoins de ses enfants. Dans le système scolaire, on va en arrière chaque année. Ça ne s'améliore pas du tout. C'est pire aujourd'hui que c'était dans l'année 2000. Une citation de Shelley Petit, qui est présidente de la Coalition des personnes handicapées du Nouveau-Brunswick. Shelley Petit, donc, tient à préciser que la volonté du personnel de faciliter l'adaptation est bien présente, mais qu'il fait face à de plus gros défis. C'est un manque d'argent, c'est un manque d'investissement, c'est un manque vraiment de faire du développement avec nos enseignants et aides-enseignants pour qu'ils sachent comment travailler avec ces jeunes-là. C'est aussi un peu d'ignorance en ce qui concerne la province, qu'il y a plus de 2000 handicaps au Canada qui sont reconnus. C'est sur cette air ensoleillée que je vous souhaite une très belle journée. On va se retrouver, je l'espère, demain à 9h30. Mathieu Tessier, est-ce que vous serez là?
Avec plaisir.
Parfait. Alors, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute d'Au quotidien. Si vous avez manqué un bout d'émission, bien, n'hésitez pas à visiter notre site Internet, canalm.vusevoix.com, et aussi, on est disponible sur d'autres plateformes. Ici Hélène Denis, bonne journée.